Donc nous avons un tout petit peu décalé les choses et c'est donc M. Michel Fourcade qui va prendre maintenant la parole, qui nous vient de l'université de Montpellier III, qui est un spécialiste donc du thomisme, mais en tant qu'historien, voilà. Pas philosophe ou théologien. Il est un spécialiste d'histoire intellectuelle. Il a beaucoup travaillé sur la sécularisation et la désécularisation. Il est aussi, si j'ai bonne mémoire, un spécialiste de Maritain, Jacques Maritain, qui est l'autre, enfin qui n'est pas l'autre visage de Gilson, mais qui est une sorte d'alter ego, pas toujours d'accord avec lui d'ailleurs, de Gilson. Et je crois que vous présidez le cercle de Jacques Maritain. Donc voilà, c'est donc un historien qui nous parle maintenant, nous approchons de la dimension politique annoncée, qui nous parle du dérégiminé, non pas du dérégiminé. Ah ben d'ailleurs, c'est bien écrit là, c'est sur le site du collège qu'on a un petit problème. Lecture contemporaine du dérégiminé de Thomas d'Aquin. Je vous donne la parole et vous remercie.
Merci
d'être là.
Je sais pas, le micro marche, non?
Oui. L'orienter vers...
Merci, et alors, merci aussi de cette invitation ici, et participer à ce colloque, et merci à Florian qui m'y a introduit, même si alors, Florian est un ami, mais là c'était un piège pour moi, puisqu'en acceptant, je ne pouvais savoir ni que mon emploi du temps serait déplacé à cause des grèves étudiantes, ce qui fait que je suis en plein boom, là, de rattrapage, donc je vais devoir interrompre et partir dès ce soir pour récupérer mes euros, ni également que je serai en plein dans des grèves de SNCF, ce qui fait que j'arrive à peine, je descends à peine du train. Et donc mon texte n'aura pas toute la beauté formelle qu'il mériterait. Et il sera en effet souvent question un peu de Gilson, mais avec qui je vais en introduire, mais également de Maritain, puisque Maritain et ses amis ont joué un rôle essentiel dans les réinterprétations de ce traité fameux de saint Thomas d'Aquin. Alors moi je suis historien, non pas de la philosophie, mais d'histoire contemporaine tout court, et pas du tout d'histoire de la philosophie médiévale. Et donc, je ne vais pas traiter, si vous n'avez jamais entendu parler de ce traité, je ne vais pas le faire à votre place. Je vous signale toute une bibliographie, puisque je viens de découvrir qu'il est en plus à l'oral de l'agrégation de philosophie cette année. Et il y a une nouvelle édition qui vient de paraître chez Vrin, avec toute une introduction historique précieuse, parmi la bibliographie proprement médiévale sur l'interprétation du traité, donc ce bouquin aussi de James Blight, Le gouvernement idéal et la constitution mixte au Moyen-Âge, qui replace saint Thomas et sa postérité dans l'ensemble de la réflexion médiévale. Et donc ce qui m'intéresse moi ici, c'est plutôt les interprétations contemporaines, les usages contemporains qui ont pu être faits donc, de ce traité fameux. Alors, des régiminés ou des régnaux, maintenant on préfère plutôt l'appeler d'ailleurs des régnaux, et ou du royaume. Donc, quand il a été traduit par des proches de Maritain, c'était du gouvernement royal, j'en parlerai tout à l'heure. Et grâce à Florian, je vais introduire par un cours inédit d'Étienne Gilson, qu'il a retrouvé donc dans les archives Gilson. Un cours précisément sur le dérégno. Et alors bon, simplement, j'ai relu ça ou j'ai découvert ça hier soir, donc je n'en ai pas tiré toute la substantifique moelle. Je commencerai simplement par une citation donc, de Gilson dans ce cours inédit. Lorsqu'on étudie l'histoire des idées philosophiques, on arrive assez vite à constater que la révolution, de fait, bien qu'elle obéisse dans une large mesure aux nécessités abstraites que le contenu des idées lui impose, n'offre pas l'aspect linéaire qu'offrirait la déduction de leur rapport abstrait. Toutes sortes de contingences humaines, nées du temps et de l'espace, font que le cours de l'histoire de la philosophie est une vraie histoire. Il est encore bien plus évidemment ainsi, lorsqu'on étudie l'application que font les philosophes de leurs principes à l'état politique et social des pays où ils vivent. En pareil cas, la portée de leurs principes leur échappe souvent, parce qu'il leur est difficile d'en imaginer l'application à des états de choses profondément différents de celui qu'ils ont sous les yeux. Voyons-nous plutôt nous-mêmes, l'ordre social change, nous ne pouvons prophétiser que des utopies, rien de plus. Ce que les philosophes peuvent faire et doivent faire, c'est penser juste. Si leurs principes sont vrais, il y aura toujours quelqu'un pour en tirer les conséquences dans toute situation donnée. Et donc, ça montre déjà le partage qu'il faisait entre le traité lui-même et puis les principes fondamentaux qui y étaient engagés. Et naturellement, c'est ce difficile partage dont il va être question aujourd'hui. Comment les thomistes contemporains vont-ils devoir apprendre à distinguer, on pourrait dire, le contexte des tâches de temps laissées dans le traité de saint Thomas, et puis, évidemment, ces principes vitaux engagés dans la philosophie ou la théologie politique de saint Thomas. Alors, Gilson poursuivait. La fin de ce texte indique le plan que devait suivre saint Thomas, puisqu'en plus c'est donc un texte inachevé qui a été prolongé le siècle d'après par un disciple dans un sens un peu différent. Trois parties. Le roi doit établir la vie vertueuse, il doit la conserver, il doit la promouvoir vers le meilleur. Peut-être est-ce dans cette dernière partie que nous aurions vu la théologie jouer encore plus son rôle. L'œuvre est inachevée. Quel eût été le plan d'une chrétienté thomiste? Sans doute, premièrement, suprématie du pape. Deuxièmement, pas un mot sur l'empereur. Sans doute s'en méfiait-il. Troisièmement, met les princes en juridiction sur le temporel de leur royaume. Quatrièmement, la théologie les guide pour qu'ils guident les hommes vers la béatitude en établissant la vie vertueuse. Distinction, subalternation, c'était ça la vérité. Par un destin tragique, le Moyen-Âge n'a jamais formulé cet idéal, puisque le traité était resté inachevé, qu'il habitait et dont la justification était prête. Et l'œuvre fut achevée, mais dans un autre esprit. Alors, si le Moyen-Âge n'a donc pas pu achever peut-être la vision que saint Thomas portait entièrement en germe, eh ben, l'époque contemporaine donc, va beaucoup s'intéresser à ce traité, jusqu'à une date très récente, puisque, comme je vous le disais, c'est à l'Agrégation de philosophie, une édition chez Vrin due à Delphine Caron en 2016. Mais vous avez également en ligne, sur des sites comme Vive le Roi, en fait, toute une série de sites, etc., tout à fait engagés et militants, le traité accessible tel quel, bon, il faudrait peut-être vérifier la traduction parfois, mais le traité est donc tout à fait accessible. Et cet intérêt pour le traité des Regnaux date, on va le voir, du début des années 20. Avant, il n'avait pas cet usage courant et de vulgarisation. Et donc, c'est à l'heure, on pourrait dire, il y a déjà eu plusieurs décennies de renouveau thomiste, et voici le renouveau thomiste dans les années 20 qui se retrouve posé face à la question politique. Alors, il faut donc, pour ressaisir cet intérêt soudain pour le traité du gouvernement royal, se remettre donc dans cette époque et se rappeler du coefficient d'officialité qui était alors accordé dans l'Église à la pensée de Thomas d'Aquin. C'est une valeur référentielle, c'est aussi une valeur normative, depuis l'an XIII, encore plus dans le contexte de la crise moderniste intégriste sous Pie X. Et donc, il y a toute une série de lectures qui veulent aussi trouver chez saint Thomas, on pourrait dire, le béaba de la pensée politique ou le cadre qu'on pourra appliquer tel quel d'une philosophie politique. Et on retrouvera ce type de fondamentalisme thomiste dans le commentaire célèbre, bien que plus personne ne le lise, mais célèbre justement comme ce qu'il ne faut pas faire, d'un dominicain de la province de Toulouse, le père Peg, qui s'était signalé donc dans une application au mot à mot, on pourrait dire, du traité de saint Thomas d'Aquin et de son interprétation dans un sens monarchiste proche à l'époque de l'Action française, puisque le père Peg cousinait beaucoup avec Maurras. Dans l'indifférence à tout critère de contextualisation littéraire ou de contextualisation historique. Et donc, on a eu un premier moment, avant même la guerre de 14, de débat autour de ce traité-là, alors même qu'il ne circule pas encore vraiment, mais dont je n'ai pas parlé de ce premier moment. Donc, c'est dans le contexte de la naissance du sionisme et de la volonté d'une démocratie chrétienne, ou au contraire, naissance de l'Action française et la cristallisation d'une certaine façon d'être monarchiste. Alors, heureusement, je ne vais pas traiter cette première phase, mais elle a été très bien traitée dans un article, une étude auquel je ne peux que renvoyer, celle de M. Imbard, donc il nous succédera ensuite. Démocratie ou monarchie, la discussion sur le meilleur régime politique chez quelques interprètes français de Thomas d'Aquin, qui avait été réalisée dans le cadre du colloque pour le centenaire de la revue Thomiste en 1993, et que vous retrouverez dans le volume « Saint Thomas au XXe siècle ». Et ce que montre son étude, c'est notamment que la question avait été très disputée. Son étude ne fait pas que ça. Il s'interroge aussi sur les ferments de démocratie que Maritain retrouvera plus tard chez saint Thomas, en confrontant cette idée de Maritain, ou cette intuition de Maritain, avec l'avis des thomistes contemporains de ce début du siècle, de la revue Thomiste, et puis après avec les textes de saint Thomas lui-même. Et ma foi, c'est l'étude de M. Imbard n'était pas contradictoire finalement avec ce qu'avait pu dire Maritain, puisque en effet, Maritain avait un certain nombre de droits à pouvoir avancer cette idée Simplement, il avancera bien plus tard dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, mon but aujourd'hui, c'est de passer de ces années 20 à la Seconde Guerre mondiale en voyant par quelles étapes Saint-Thomas va être démoracisé, démonarchisé, puis finalement démocratisé. Voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon. Alors, ce temps, puisqu'il est question de Gilson, reprenant un extrait de ce qu'il dira dans ses mémoires, « Le philosophe et la théologie », la question vraiment intéressante est de savoir pourquoi un maître en théologie, il fait référence à Garrigou Lagrange, appartenant à l'ordre de Saint-Dominique, interprète hautement qualifié de la théologie thomiste et jouissant dans l'Église d'une autorité doctrinale incontestable, s'estimait alors tenu en conscience de soutenir que la notion du meilleur régime politique défendu par Charles Maurras était précisément la même que celle qu'avait enseignée Saint-Thomas dans son traité sur le gouvernement des princes. Car il suffit d'ouvrir la somme des théologies au bon endroit pour savoir que ce n'est pas vrai. Ce théologien était bien loin d'être le seul à son erreur. Il ne manquait pas de laïcs de haute intelligence, peut-être visiteux d'ici Maritain, qui avait été, comme on le sait, proche de l'Action française, et de grands talents, pour ne voir aucune difficulté à faire ouvertement alliance avec le nouveau parti de l'ordre. Le cœur du problème était de savoir comment, par quel conduit secret, la philosophie thomiste leur semblait fournir une justification théologique à la doctrine politique de Maurras. L'intérêt qu'ils avaient à le dire est visible. Saint Thomas est le docteur commun de l'Église. Démontrer que sa doctrine politique est déjà celle de Charles Maurras revenait à prouver que la pensée politique de Charles Maurras était celle même de l'Église. Donc ça, c'est un texte de Gilson des années 60, où il revient sur sa étrangeté face à ces thomistes des années 20, dont il n'était pas, lui qui, à l'époque, est plutôt du côté de la Sorbonne. Alors, si on suit cette interprétation de Gilson, en faveur du rapprochement, par exemple, de Maritain avec le maurrasisme, il y a bien eu, en effet, cette analogie du monarchisme. On la trouve, par exemple, dans une lettre que le philosophe écrit à son copain Henri Massy en 1914. « Plus j'y pense, plus je me persuade que nous devons avoir une doctrine politique. Cette doctrine ne peut être qu'anti-révolutionnaire, anti-républicaine, anti-constitutionnelle, donc, et monarchique. Doctrinalement, notre siège doit être fait à tous. Nous ne devons pas nous payer d'illusions. » Alors, cependant, il faut aussitôt corriger, le monarchisme de Maritain ne se traduira ni par une adhésion à l'Action française, ni jamais par aucun engagement public. Il ne se recommandait pas de Maurras. Il demeurait également très abstrait, puisque Maritain mettait aussi Massy en garde contre le choix de tel ou tel prétendant ou la nécessité de militer. Cela ne signifie pas que nous devions militer. Dieu suscitera d'autres rois. En réalité, le monarchisme chez Maritain est une sorte de conversion de son anarchisme, ce qui est souvent d'ailleurs le cas quand on regarde les monarchistes sur les réseaux sociaux, etc. Bon, on a l'impression simplement qu'ils ont converti leur anarchisme ou leur chiisme. Donc, on va dire, c'est le monarque toujours absent, toujours caché, et assez pratique pour vivre une sorte d'existence apolitique. Bon. Mais ce qui est certain, donc, c'est qu'en même temps aussi, dans la lecture qui prévalait alors de saint Thomas, on tient donc généralement pour acquis que le docteur Angélique, résolvant la question classique du meilleur régime politique, avait préconisé donc la monarchie tempérée, le gouvernement d'un seul, l'unité de commandement étant gage de cohérence au service du bien commun. Alors, Maritain, lorsqu'il décrit cette lettre à Massy, n'était pas encore véritablement entré dans la philosophie politique de saint Thomas. La question va se poser beaucoup plus précisément pour lui en 1925, dans un contexte un peu particulier, puisque déferle chez lui, à Meudon, toute une série de jeunes gens très excités et qui lui demandent des directions pratiques et également des directions spéculatives. Il écrit à journée, les filets craquent. Alors certains viennent de la gauche, du démocratisme, bon, mais beaucoup viennent de ce qu'on pourrait appeler la jeune droite. Et cette jeune droite qui est marquée, on pourrait dire, donc de jeunes intellectuels, de jeunes normaliens parfois, marquée par deux effets. Il y a un effet 1925, un effet année sainte, au cours de laquelle Pie XI publie l'encyclique Quas Primas, qui met en évidence le thème de la royauté universelle du Christ. Et puis il y a aussi un effet cartel des gauches, 24-26, qui fait un peu la même chose que l'effet Hollande sur la jeune droite, c'est-à-dire que ça a excité extrêmement les troupes, et qu'il y a donc une volonté d'en découdre. Et donc c'est dans ce contexte-là que Maritain, on lui demande des consignes politiques, alors même qu'il n'est pas versé dans cette question-là, qu'il apparaît, on est au sommet un peu du premier nouveau thomiste, il a fait le plein grâce à sa stratégie d'entrisme du côté anti-moderne comme du côté ultra-moderne, des jeunes gens lui viennent de Maurras et des jeunes gens lui viennent de Cocteau, et donc dans cette espèce de bain de culture qui est déjà Meudon, on lui demande, et il est obligé de faire intervenir aussi de la prudence, puisque savoir comment guider tous ces jeunes gens. Et l'un de ceux qui lui demande ça va créer un jour qui s'appelle Amédée Divignac, bien oublié aujourd'hui, mais crée un journal qui s'appelle La Gazette française, et qui veut donc être un journal de doctrine politique, une revue de doctrine politique, avec l'idée que, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une idée que Maurras, finalement, ok, mais il est incomplet. Et donc, il s'agit d'apporter ce qui manque à Maurras, en rétablissant donc toute une doctrine chrétienne, voire une science chrétienne du politique. Et donc, ça va être le sens de l'effort de la Gazette française. Ils sont très proches des Maurrassiens, et ils en sont parfois membres de la Ligue ou Camelot du Roi, mais ils ont bien conscience de tout ce qui manque à Maurras, et il s'agit pour eux de venir compléter la science politique dite positiviste, ou l'empirisme organisateur, par une science politique qui serait d'origine véritablement doctrinale et chrétienne. Alors, dans cet esprit, Divignac va créer une collection, les maîtres de la politique chrétienne, et c'est pour inaugurer cette collection, les maîtres de la politique chrétienne, les autres livraisons, ça sera ensuite, ça accueillera ensuite le traité de Bossuet de la monarchie héréditaire et le traité de Saint-Augustin de la cité, un extrait de la cité de Dieu sur la paix de la cité, et puis après, Divignac lui-même va publier son propre bouquin « Vers une politique chrétienne », dont l'insuccès va un peu désespérer le jeune idéologue, mais enfin, c'est un peu prétentieux de vouloir figurer dans la même liste de maîtres de la politique chrétienne. Et donc, le traité, la traduction du traité du gouvernement royal vient donc inaugurer cette collection-là en 1926. Elle est due à un jeune homme de l'Institut catholique qui va, quelques années plus tard, devenir dominicain. Et à cette époque-là, il s'appelle Claude Roguet, il deviendra le père Aymon-Marie Roguet, très connu, puisqu'il sera celui qui sera chargé des messes radiodiffusées, puis plus tard, il va fonder le centre de pastoral liturgique, il est mort en 1991, après une vie dominicaine très remplie. À cette époque-là, il n'est pas encore rentré dans l'ordre, il est donc membre de la Cato, proche de Maritain, proche de l'abbé Lallemand, qui enseigne également la sociologie politique à la Cato, et donc c'est lui qui a l'idée de cette traduction-là, et qui décide également de la faire près de la partie authentique. Donc, il a lu Mandonné, et donc il a fait la distinction entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, de la partie authentique du De Regimine, et qui va également demander une préface au père Guéry. Alors, quand on lit cette préface, attention, le père souvent on met Garrigou dans le même sac que Pegg. Non, Garrigou Lagrange, c'est un vrai Thomiste, c'est pas du tout pareil que Pegg. Alors, ceci dit, la préface qu'il fait est un peu dans son style à lui, c'est-à-dire que c'est pas un style proprement, c'est doctrinal, il y a un fort contenu doctrinal, mais c'est pas un style proprement scientifique. C'est émaillé de digressions, de ses propres avis sur les questions du temps. Il ne laisse deviner un peu partout sa proximité réactive avec les jeunes excités ou les maurassiens. Par exemple, sa préface commence par ça. À un temps où la politique n'est plus guère considérée comme une vertu, comme une prudence ordonnée à promouvoir le bien commun de la multitude, mais comme l'art de transiger pour aboutir, pour sauvegarder les intérêts d'un parti, en opprimant souvent l'élite des citoyens et en travaillant à la ruine d'un pays. Bon, il y a en permanence des digressions de ce genre-là sur le contexte immédiat qui montre bien que c'est une préface engagée dans le moment. Donc ce n'est pas une préface proprement scientifique, mais c'est une préface malgré tout à fort contenu doctrinal. Et Garrigou n'est pas du tout, on pourrait dire, un maurassien au sens qu'il aurait lu Auguste Comte et qu'il serait pour l'empirisme organisateur. Dans sa préface, il met en évidence toute une série de principes même de Thomas d'Aquin, le bien commun, la subordination et la juridiction de l'Église sur la cité. Enfin, il rappelle, il met tout ça en place. Et donc, je serai moins sévère que Gilson dans le jugement que je porterai sur cette préface de Garrigou. Il s'agit en réalité d'une sorte de préface qui veut faire de l'entrisme dans les milieux de la jeune droite ou dans les milieux maurassiens, et une sorte de catéchisation souriante. On n'est pas à un moment de rupture. Dans ce traité, Garrigou-Lagrange, certes, justifie au passage en deux lignes le politique d'abord de Maurras en disant c'est dans l'ordre d'exécution, non pas dans celui d'intention. Bon, Maurras assurera bientôt qu'il n'avait jamais voulu dire autre chose. Mais donc, c'est un peu le positionnement de Meudon à cette époque-là. Ça sera le positionnement encore de Maritain l'année d'après dans son opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques. C'est-à-dire essayer de faire de l'entrisme et de convertir, d'achever ce qui manque. On voit déjà tout ce qui manque à l'Action française. Et il s'agit d'y faire malgré tout son nid pour essayer de convertir l'ensemble de la mouvance. Alors, tout ça n'est pas possible, évidemment, après la condamnation en 1926-27. Et donc, si dans un premier temps, on avait déjà le traité Saint-Thomas qui servait à compléter Maurras et donc à démauraciser aussi une mouvance, dans un deuxième temps, il va falloir maintenant rompre carrément avec Maurras. Et en même temps, on va voir que ça va finalement toucher également la question du monarchisme. Alors, je ne reviens pas sur tous les livres qui ont pu être publiés par les Maritainiens. Ils sont nombreux dans cette controverse, notamment ceux de Jacques, Primauté du spirituel, Pourquoi Rome a parlé, ou Clairvoyance de Rome. Celui qui lui est personnel, c'est Primauté du spirituel. C'est celui qui vient de son fond propre. Pourquoi Rome a parlé et Clairvoyance de Rome, c'est ce qu'il fait sur ordre du pape et dans la perspective du pape Pie XI. Mais donc il y a toute la controverse du court terme, mais il va y avoir également donc tout ce qui se joue dans le plus long terme. Et donc le long terme est donc aussi celui de la philosophie politique, et la crise incite donc Maritain à revenir vers le traité des régiminés. Certes, la condamnation du bourracisme n'entend pas toucher à la préférence monarchique, mais l'interprétation du Deregno avait joué un trop grand rôle dans le compagnonnage des thomistes avec l'Action française pour que les premiers puissent éviter de reprendre la question du meilleur régime à frais neufs. Et donc, puisque les fragments de la synthèse maurassienne, ils y voyaient bien que c'était des fragments, mais ils s'en étaient un peu contentés, ne faisaient plus l'affaire, c'est aussi vers saint Thomas qu'il fallait revenir pour bâtir aussi une véritable science politique ou une philosophie politique de substitution. Alors, il y a eu toute une série de textes qui ont donc réinterprété le traité des Regno. Je ne reviens pas sur le premier qui était dû à un abbé Victor Bouillon du diocèse de Nice et qui était tout à fait à fond dans le sens maurassien. Enfin, il faisait de saint Thomas un adepte de la monarchie absolue. On trouvera ça dans le texte écrit. Il y a deux autres qui vont jouer un rôle plus intéressant dans l'évolution. Donc, l'abbé Bernard Roland Gosselin qui publie la doctrine politique de saint Thomas chez Marcel Rivière en 58. Qui reprend donc la question au sens large, en disant que d'abord le Deregno n'est qu'un extrait, qu'un fragment de l'ensemble de ce que saint Thomas a pu dire touchant le politique, et qu'on ne peut pas penser le traité de saint Thomas de manière juste si on ne le remet pas dans l'ensemble de sa philosophie morale, de sa théologie morale ou de ses doctrines. Et il me montrait que sur toute une série de points, lorsqu'on faisait ce travail-là, saint Thomas apparaissait en opposition absolue avec le positivisme moderne, donc le comtisme révisé également par le maurrassisme. Quant à l'apport plus spécifiquement maritainien, ça va être la thèse de droit qui est soutenue en 1927 par Marcel de Mongeau, qui est un jeune juriste à l'époque d'Aix-en-Provence, qui va monter à Paris, devenir lui aussi en 28 dominicain. Il mourra très prématurément en 1941. Il est un des meilleurs disciples à ce moment-là de Jacques Maritain, avant même qu'il n'entre dans l'ordre. Et la thèse a été pensée largement à Meudon. Elle est publiée, elle devait être préfacée par Maritain, mais l'éditeur Blot va bloquer en refusant la préface, justement parce que Maritain était devenu, depuis Primauté du spirituel, très contesté dans les milieux maurassiens. Et donc la préface n'a pas pu paraître. Alors, malgré cet ostracisme, donc, par sa méthode scientifique et par ses conclusions impartiales, son attention à toutes les données du problème et au contexte, cette étude avait fit faire à la question une avancée très substantielle. Sans découvrir encore chez saint Thomas tous les ferments démocratiques que Maritain retrouvera plus tard, l'auteur mettait en évidence les préférences pratiques du docteur médiéval pour le régime mixte. Certes, reprenant la comparaison classique des régimes types, saint Thomas avait bien avoué sa préférence théorique et formelle pour la royauté, non seulement par analogie avec le monde régi par une providence unique, mais aussi parce que c'était elle qui garantissait le mieux, à ses yeux, l'unité, l'ordre, la paix, éléments de bien commun jugés plus nécessaires que la justice distributive donnée par l'aristocratie ou la liberté assurée par la démocratie. Mais saint Thomas avait aussi ressaisi la question en moraliste, attentif donc à la corruption de la condition charnelle, à l'état déprimé de nos vertus, fût-ce chez le monarque, toujours tenté par la tyrannie, pressentant que chez l'homme, le pouvoir absolu courant absolument. Et donc, c'est une combinaison des trois régimes et des avantages que chacun apportait, qu'il avait donc préconisé ensuite comme idéal pratique. Et donc, l'ouvrage de Mongeau a eu un rôle important, un peu pour fixer la doctrine, l'interprétation de la doctrine de ce traité des Regno. Et en même temps, il fait partie de tout un mouvement plus large où toute une série de distanciations sont opérées qui vont ouvrir l'espace, on pourrait dire, de la transposition analogique. Si Pegg était fondamentaliste dans sa lecture, c'est que le ressort de l'analogie, on pourrait dire, était un peu brisé. Et donc, il faut prendre des distances pour ouvrir un espace de transposition analogique. Alors, quelles sont ces distances? Et donc, faire intervenir l'histoire et le contexte historique, et c'est là que des gens comme Gilson et des historiens jouent un rôle, Mandonné, etc. Deuxièmement, la critique littéraire et les règles spécifiques du genre miroir des princes auxquelles appartient ce traité. Et donc, là aussi, apprendre la critique littéraire pour bien situer les choses. La situation donc, du dérègneau dans l'œuvre entière de Thomas et l'ensemble de ses doctrines, donc ici le principe herméneutique touchant le dérègneau dans l'ensemble de la doctrine thomiste. Et puis, la logique du traité lui-même et son ordonnancement interne. Et donc là, celui qui va jouer un rôle important, c'est l'abbé Journet, puisque le traité donc, du gouvernement royal est donc réédité, on ne peut plus le vendre tel quel. Divignac n'a pas réussi à choisir entre Maurras et le pape, mais il est resté entre les deux. Enfin, et il a bien fallu qu'il réédite le traité autrement. Et donc, on va demander cette fois-ci la préface au conseiller, celui qui devient de plus en plus le conseiller théologique de Maritain, le Suisse, l'abbé Journet, qui fait donc une nouvelle préface qui ne ressemble pas du tout, pas tout à fait, en tout cas, à celle de Garrigou-Lagrange, puisque bien sûr on retrouve les principes qu'il y avait déjà chez Garrigou, mais chez Journet, il s'agit justement de parvenir à une science, hein, la notion d'une science doctrinale et d'une science, comment peut-on trouver à partir de là les éléments d'une science politique. Et donc il commençait dans la lecture du traité même à classer qu'est-ce que c'était qu'étaient les majeurs, on pourrait dire, les intuitions fondamentales, et puis les mineurs, dues à l'ère du temps ou dues à des conséquences naturellement transitoires. Et alors vous savez que nos thomistes scolastiques adorent les petits schémas, il en faisait même un schéma extrêmement compliqué, le plan de l'ouvrage, qui sera reproduit plus tard par le père Cottier dans sa propre édition du De Regno, donc où il montrait donc ce qu'étaient les intuitions fondamentales et puis ce qui ne l'était pas. Et donc, peu à peu, ainsi se détache une relecture du traité De Regno, mais avec une véritable ambition de philosophie politique, on pourrait dire, de science du politique, puisqu'on ne peut plus se contenter de l'empirisme organisateur qui se présente comme une science politique, il faut bien en créer une autre d'inspiration chrétienne, de substitution, et le De Regno doit être donc le point de départ, la relecture du De Regno doit être le point de départ de cette nouvelle science politique qui pourra se substituer au maurrasisme. Je lis la conclusion de Journet. On ne trouvera pas dans le De Regno la doctrine politique de saint Thomas tout entière, mais on y trouvera sur certains points importants les textes les plus explicites qui nous aient laissés. Ce petit écrit inachevé laisse paraître la pensée la plus achevée qu'il soit. Il est impossible de le lire sans ressentir dans le fond de son être une impression d'ordre et de paix spirituelle. Un souffle très pur, très fort le traverse. Jamais la doctrine politique n'a été plus sûre, plus décantée, plus sainte. Deux siècles et demi après le De Regno, où la politique est définie comme une morale de la cité qui doit servir les destinées immortelles de la personne, on aura le prince, où la morale est recommandée comme un masque. En même temps, le pessimisme luthérien, séparant doctrinalement le domaine chrétien, du domaine chrétien, la politique tout entière, et l'abandonnant au prince de ce monde, c'est-à-dire le diable. Un autre principe spirituel aura passé sur l'avant-scène. Bon. Alors, ceci dit, nos thomistes ne sont pas défaitistes, et donc, puisqu'on a abandonné au diable la politique, il va y avoir tout un effort pour la repenser, à commencer donc d'abord, avant de voir les réalisations, même si l'urgence exige dans les années 30 de passer aussi à des réalisations, mais à reconstruire donc une science politique d'inspiration chrétienne à partir de ce traité de saint Thomas. Et ici, le premier livre important qu'on a sur notre route, c'est donc celui que Maritain publie en décembre 1933, qui s'appelle « Du régime temporel ». Vous voyez comment il y a une transposition immédiate entre le De Regno et le « Du régime temporel ». Il explique « Ceux qui ont regardé primauté du spirituel comme un itinéraire de fuite, c'est le Maurrassien qui avait dit ça, se sont lourdement trompés. Ce livre avait pour objet d'obtenir de quelques-uns une purification de la raison et de la foi, qui avant tout consacra celle-ci sur l'unique nécessaire, mais qui par surcroît les rendit aussi plus aptes à imposer à la matière, le moment venu, la primauté qu'il affirmait. » Et donc c'est avec cet espoir d'imposer à la matière politique la primauté du spirituel et que Maritain donc propose ce qui est une première transposition du De Regno, puisque dans cet ouvrage de 1933, il esquisse la figure d'un État chrétiennement constitué, non pas un État chrétien, mais un État chrétiennement constitué, qui serait à la fois personnaliste et communautaire. Et il met également en place toute une série de subalternations, l'individu par rapport à la cité, met la cité au service de la personne. Il applique ça aussi à la liberté, en ayant une première dialectique de la liberté qui va être essentielle chez lui. On a une liberté de choix qui est soumise au bien commun, mais le bien commun lui-même est au service de notre liberté d'autonomie. Et donc, il va peu à peu donc, construire une science du politique d'inspiration thomiste, évidemment. Alors, ceci dit, je lis ce qu'en disait Journet, justement, dans sa recension. Va-t-on s'excuser, en parlant de ce petit livre, d'arriver en retard ? On s'excuserait plutôt du contraire. Pour la partie qui touche à la métaphysique de la liberté, elle est située dans l'intemporel et ne saurait dater. Pour la partie qui touche au temporel, elle est terriblement en avance sur ce que les plus hardis d'entre nous ont su dire ou s'efforcent encore d'inventer. Le titre rappelle celui d'un opuscule où saint Thomas écrivait à l'usage d'un roi de 14 ans, énonçait avec une sérénité que ne troublaient pas les iniquités des princes, les principes théologiques qui doivent régir les cités temporelles. En comparant l'opuscule du maître et celui du disciple, on verra le chemin qu'a parcouru le monde en 7 siècles. Les principes, certes, n'ont pas changé. Et pour ce qui est des premiers d'entre eux, touchant la distinction du spirituel et du temporel, leur rapport, la cité conçue non pas comme une fin ultime ni comme un simple moyen, mais comme une fin intermédiaire, ils garderont toujours leur efficacité et n'ont qu'à être ici rappelés et appliqués. Mais par rapport aux principes secondaires, le monde a tourné. Il est aujourd'hui, pour employer une comparaison de l'auteur, sous d'autres constellations. Et donc, Maritain commence là une transposition d'un certain nombre de principes thomistes. Alors, une autre recension, celle d'Étienne Borne, jeune disciple de Maritain, mais aussi lui, démocrate chrétien, ce que n'était pas Maritain. L'État chrétien sera respectueux des consciences, non pas parce qu'il serait neutre entre la vérité et l'erreur, mais pour mieux reconnaître les droits souverains de Dieu qui sait se faire entendre des âmes par l'intérieur. Dans une telle chrétienté, les masses laborieuses accéderaient à la propriété et à la liberté. L'ordre temporel serait une démocratie personnaliste qui sauverait les exigences morales contenues dans les aspirations démocratiques sans tomber dans les erreurs rousseauistes. Alors, est-ce que c'est vrai ? On ne peut pas dire directement ça du régime du temporel. Maritain ne présente pas encore son idée sur le régime politique avec la terminologie démocratique. Donc Borne, ici, avance un peu les choses en parlant d'une démocratie personnaliste. Quand on regarde un peu la production doctrinale des thomistes dans les années 30, ben, les expressions sont le plus utilisées pour désigner le meilleur régime possible ou le régime qu'ils cherchent, sont la plupart du temps dans une terminologie flottante ou une terminologie transitoire. On parle de régime temporel, on parle d'État chrétien. Gilson parlera d'ordre catholique, où ce sera le thème de la nouvelle chrétienté, mais on n'est pas encore proprement dans une terminologie qui épouse les différentes formes politiques, et justement parce que la question se cherche. En effet, Maritain, dans son traité du régime temporel, a parlé de beaucoup de choses qui, en effet, s'originent chez saint Thomas, l'action des catholiques et les différentes modalités de l'action des catholiques, la juridiction de l'Église sur la cité et les différentes subalternations, j'en ai cité quelques-unes, la notion de bien commun, mais également, il introduit la question de la liberté, également la question de la personne, et donc c'est sur toutes ces questions-là qu'il va travailler beaucoup, et sur lesquelles il va y avoir les controverses dans les années 30, mais par contre, la question du régime politique lui-même, on pourrait dire qu'elle est mise un peu en suspension, qu'elle est un peu suspendue, et qu'elle se cherche, justement, dans cet état transitoire. Combien de temps il me reste ?
On a commencé avec un tout petit peu de retard. Combien de temps encore ? On a l'impression.
Alors, bon, quoi qu'il en soit.
Décider du sort des individus.
Comment ?
On dirait 10 minutes, non, je crois. 10 minutes, n'est-ce pas ? Avec 10 minutes de retard.
Alors, oui, donc c'est juste.
10 minutes encore.
10 minutes, d'accord. Alors, quoi qu'il en soit, donc, la question du régime politique lui-même donc, n'est pas encore véritablement abordée, elle est touchée, mais elle n'est pas encore véritablement abordée avec une précision de science politique, on pourrait dire, dans ce traité du régime temporel, qui développe plutôt tous les autres aspects, on pourrait dire, touchant à la politique dans la doctrine de saint Thomas, la notion de bien commun, etc., mais pas encore celle proprement de la forme même du régime, parce que, justement, les principes de réalité font que la question, d'abord, a besoin de maturation, et cette maturation va être lente, mais également parce que la question reste empoisonnée, elle divise, la question de la meilleure forme du régime politique divise à peu près tout le monde, et donc elle risque encore d'affaiblir les démocraties face à l'enjeu des totalitarismes, et donc c'est pas le moment aussi de critiquer les démocraties telles qu'elles sont. Pour cette question-là, la question est un peu réservée. Alors, Maritain, ça va changer, on le verra en 1939, juste avant, à la veille de la guerre, mais je garde ça pour ma conclusion. Et donc, c'est encore dans cet état flottant, on pourrait dire, qu'on retrouve la question elle-même chez Gilson. Sur toutes ces questions-là, Il y a eu bien sûr des échanges entre Maritain et Gilson à partir de 1932-33, qui ont touché surtout sur les modalités de l'action des catholiques. Action minuscule des catholiques, un catholique qui agit, puis action majuscule, lorsqu'on parle de l'action catholique dans un cadre hiérarchique et ecclésial. Et donc, vous savez que dans les années 30, c'est toute la question justement de faire le partage entre ce qu'on fait en catholique ou ce qu'on fait en tant que catholique, selon la distinction maritainienne, et il a fallu trouver les frontières en tâtonnant. C'est Gilson qui avait essuyé les plâtres en présentant dans cette l'hebdomadaire dominicain, semaine après semaine, son ordre catholique. En juillet 1934, il y avait eu tout un tumulte hiérarchique quand il avait abordé la question de l'enseignement libre et de sa qualité. Il avait donc menacé de rendre son stylo. Et Maritain, bon, l'avait retenu, ainsi que les dominicains de Juvisy, en disant « Non, surtout, n'en faites rien ». Il l'avait encouragé. Et donc, ça nous donne le bouquin qui paraît en décembre 1934, sous le patronage de Sète et de la Société Saint-Louis, pour un ordre catholique. Et donc, Maritain fera les éloges de ce livre à Gilson. Il parlera d'un livre socratique, un aiguillon pour stimuler les Athéniens et les épiscopes. Mais en même temps, Maritain faisait entendre aussi toute une série de bémols, le refus d'un sécessionnisme catholique. Il ne s'agit pas de penser à un ordre catholique, mais un ordre pour tous. Et là aussi, il mettait l'évidence que bon, la doctrine politique n'était pas encore mûre. Alors, bon, Gilson avait été un peu vexé, il lui avait donc répondu « N'allez-vous pas ouvrir, vous aussi, votre tempus locandi, votre moment de parler ?» Et donc, juste après cet échange-là, c'est les fameuses leçons de Maritain à Santander de 1934 qui vont nous donner ensuite humanisme intégral, donc les leçons sur une nouvelle chrétienté. Et donc, entre les deux hommes, qui sont déjà amis, bon, sur la politique, on pourrait dire qu'ils n'ont pas le même rythme, qu'ils n'auront jamais le même rythme. Lorsque Maritain aura bien commencé à préciser sa vision, il écrit à leur disciple un peu commun, Yves Simon, en 1935, « Gilson est très gentil, mais quel esprit, tout d'une pièce !» Et il demandait à Simon d'aller expliquer au maître nos positions. Ainsi, cet impétus, véhémence et concassance aurait chance d'être un peu dirigé. Gilson, finalement, va abandonner le terrain sans maugréer et va remettre un peu dans ses cartons son ordre catholique. Et on retrouve un peu une espèce de flottement chez lui lorsqu'il va directement toucher cette question du dérégiminé, aussi bien dans le cours inédit dont parlait Florian, que lorsqu'il va consacrer un nouveau chapitre à la question en rééditant, dans la quatrième édition, l'euthomisme. Bon, vous connaissez celui qui a connu plusieurs éditions. Donc c'est pendant la guerre, en 1942, qu'il donne un nouveau chapitre à son bouquin, « La vie sociale ». Et donc, on pourrait dire que, on est certes pendant la guerre, sous l'occupation, puisque lui n'a pas pu être aux États-Unis pendant la guerre. Et donc, il faut le chercher. Il faut chercher dans cette nouvelle page ce que dit Gilson sur le dérégiminé et sur, en général, sur la philosophie politique de saint Thomas. Alors, dans l'édition que j'ai utilisée, on trouve ça entre la page 400 et la page 405, donc c'est assez court. Et on pourrait dire que c'est un texte qui m'a paru, alors je l'ai lu à 3h du matin, donc c'était peut-être moi qui étais fatigué, mais c'est un texte qui m'a paru très désenchanté. Très désenchanté au sens que, pour Gilson, finalement, l'effort de Thomas est vraiment très loin de pouvoir s'imposer dans le réel. Donc il a Gilson, il y a aussi une part d'engagement, c'est sous la guerre, donc Gilson connaît la tyrannie, donc il parle plutôt de la tyrannie, il dit comme quoi on verra combien sont faibles les chances qu'un peuple soit bien gouverné. Bon, il y a beaucoup de désenchantement dans ce texte-là, et quant au texte de saint Thomas lui-même, il est plus que jamais dans une sorte de relativisme historique, en disant que la thèse est admirable, mais la thèse est idéale. Et donc, après la thèse, il y a donc l'hypothèse. Et Gilson est donc apparaît à ce moment-là enfoncé dans l'hypothèse. Il avait quand même l'occasion de préciser deux points. C'est que le dérégno ne décrivait pas du tout une monarchie absolue fondée sur le droit du sang, et donc ça le mettait en opposition ici avec les lectures maurassiennes. Et il expliquait aussi, on voit par là combien la monarchie de saint Thomas diffère de ce qu'on a depuis désigné par ce nom. D'abord, ce n'est pas une monarchie absolue. Saint Thomas a même expressément réfuté la thèse qui voudrait que le roi fût monarque absolu de droit divin. Dieu n'a pas d'abord institué des rois absolus ou non, mais des juges, etc. Bon, donc c'est un texte aussi assez impressionniste. Bon, et là, qui était un texte, en tout cas peu opératif dans l'immédiat. Alors, malgré tout, ces allusions vont être suffisantes pour susciter la fureur de ce qui restait de Maurrassien, et il va y avoir toute une controverse dans la revue Universelle en 1943, donc la revue maurrassienne portée par un jeune homme qui se faisait connaître à l'époque sous le nom de Jean Harfel, plus tard Jean Madiran, qui deviendra un des penseurs de l'intégrisme français. Donc il est né en 1920, donc il est au tout début de sa carrière de penseur, et plein, on pourrait dire, il avait de la santé, puisque ses articles de la revue Universelle, il va les publier sous un troisième pseudonyme, Jean-Louis Lagorre, en 1948, La philosophie politique de Saint-Thomas, dont l'essentiel est contre Gilson, contre ces quelques pages qui n'étaient pourtant pas très méchantes, de Gilson dans sa quatrième édition du thomisme. Et il se fait préfacer par Charles Maurras, une préface assez interminable de Charles Maurras, où Maurras revient une fois de plus sur son rapport compliqué au thomisme. Et donc, qu'est-ce qu'il reprochait à Gilson ? Le lecteur impartial... Ah, attendez, ça, c'est la préface de Maurras. Il reprochait donc Madiran reprochait donc à Gilson son réalisme thomiste et critique de la connaissance, son réalisme méthodique ont contribué à dissiper les plus funestes équivoques intellectuels, celles qui naissent de la confusion doctrinale, défaut de rigueur logique. Mais Gilson vient d'aborder un ordre de questions qu'il avait jusqu'ici, croyons-nous, laissé en dehors de ses travaux, parmi les nombreuses et importantes additions faites à la plus récente édition de son introduction au thomisme. Et donc il lui reproche d'être maritainien ou d'être trop maritainien. Et donc il lui reproche surtout d'avoir ignoré les développements de la science politique façon maurrassienne, c'est-à-dire de l'empirisme organisateur. Donc je lis cet extrait qui est rigolo. « Nous avons vu se constituer au XIXe siècle, sous l'influence et la suite d'Auguste Comte, une vraie science politique en tant que telle, en tant que discipline indépendante, au sens où l'astronomie, la physique mathématique, par exemple, avaient proclamé leur indépendance à l'égard de la métaphysique. Cette sociologie ou physique sociale comtiste a été portée à un point remarquable de précision et d'organisation par l'actuel empirisme organisateur de Maurras, en s'enrichissant des travaux antérieurs ou parallèles de Bonald, de Taine, de Le Play, de Le Tour du Pin, de Léon de Montesquieu. Il est même possible de retrouver les premiers linéaments déjà fort distincts et précis d'une politique expérimentale chez de Maistre dans la politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte de Bossuet. Et sans doute, le nom d'Auguste Comte et le terme d'empirisme peuvent au premier abord paraître hétérodoxes, mais le sont-ils plus que ceux de Descartes, de Galilée, d'Einstein ? Il faut se rendre à l'évidence. Il existe aujourd'hui une science politique moderne, comme il existe des sciences physiques et biologiques. Et la renaissance thomiste ne peut donc pas l'ignorer. Et donc, il reprochait à Gilson, lui qui a 25 ans, hein, je vous rappelle que l'autre est prof au Collège de France, mais il reprochait à Gilson de ne pas avoir assez bien lu son père Peg et de n'avoir donc pas réussi à situer le dérégiminé dans la perspective de l'empirisme organisateur maurrassien. Alors, Maurras, dans sa préface, disait aussi beaucoup de mal de Maritain et de Gilson. Le lecteur impartial dira que vous leur aurez réglé leur compte sans un mot irrespectueux, mais avec beaucoup de fermeté, de calme et de raison. Grâce à vous, les affinités du thomisme et de l'empirisme organisateur sont rétablies dans l'évidence. Vous les virez, le père de Pascal, le père Billot, le père Peg. En vous lisant pour la première fois, j'étais arrêté par les lignes de début. Quoi ? Les livres de M. Gilson donneraient donc une très bonne interprétation de l'ange de l'école, puisque Madiran disait du bien du Gilson métaphysicien. Vos éloges, évidemment mérités, formaient un vif contraste avec l'impression que m'avaient laissé certaines pages de lui, les seules que je connusse, où il traita de la politique de saint Thomas. Elle m'avait paru fausse à crier. C'est pourquoi, concluant hélas, mais bien sans le vouloir, du particulier au général, je m'étais figuré que cet important universitaire n'avait absolument pas compris l'auteur qu'il commentait. Il n'en est rien. Vous affirmez, et je vous crois, ces autres pages sont excellentes, le ciel en soit loué. Bon, c'est donc qu'il était de mauvaise foi, puisqu'il est bon dans les autres domaines, c'est donc qu'en philosophie politique, il est de mauvaise foi, et qu'il n'a pas voulu donc se laisser maurrassiser. Bon, c'était des pages pleines d'espérance, puisque Maurras, quand il écrit cette préface, est en prison en septembre 1944, et impénitent, comme on le voit, et malgré tout, il espérait encore dans le succès de ses idées. Alors, l'ensemble Madiran concluait que des hommes comme Gilson ou Maritain, qui ont tant fait pour amener à la pensée de saint Thomas l'attention des élites intellectuelles, la trahissent aussi nettement au chapitre de la politique, est l'un des symptômes les plus désolants, les plus menaçants de notre basse époque. Mais le retour à saint Thomas, qui s'est inauguré en grande partie par eux, se continuera contre eux s'il le faut. Libre à eux de s'obstiner dans des erreurs contre lesquelles protestent les textes les plus nets du docteur Angélique, eux et leurs erreurs, on les écartera d'abord, puis on les oubliera. Bien. Alors, dernier point sur lequel il me faudrait être plus long, mais je vais simplement en dire un mot, me ramènera en 1939, il y aurait un livre entier à écrire, évidemment, sur le thomisme dans la Seconde Guerre mondiale et les usages du thomisme par tous les camps dans la Seconde Guerre mondiale.
Puisque, quelques instants.
Hein, je n'ai plus que quelques instants, puisque c'est également en 1939, dans son crépuscule de la civilisation, que Maritain accède directement cette fois-ci à la terminologie proprement politique, c'est-à-dire qu'il ne parlera plus de chrétienté, qu'il ne parlera plus d'ordre chrétien ou de régime temporel, mais qu'il va réutiliser, un peu dans le ruisseau où elle est en train de tomber, la terminologie démocratique, mais attention, sous l'angle d'une nouvelle démocratie, puisque celle qu'il voit est en train de s'effondrer, d'une nouvelle démocratie à refonder sur de tout nouveaux principes. Et donc, il faudrait insister ici sur tout le travail de réflexion qui a commencé un peu avant, dès 37-38. Il y avait un groupe, notamment, qui était une sorte de club Jean Moulin avant la lettre. On trouvait des technocrates, des philosophes, des universitaires, des théologiens, qui s'appelaient, autour d'une revue qui s'appelait Les Nouveaux Cahiers. Il y a donc là Paul Vigneault, Souvarine, Simone Veil, en fait, toute une série de gens passionnants, et qui réfléchissent justement à la crise des régimes démocratiques. Et ils avaient demandé à Maritain et à quelques autres de réfléchir justement au problème du déficit d'autorité dont souffraient les régimes démocratiques face évidemment à la tentation des totalitarismes. Et Maritain commence à ce moment-là une réflexion sur la démocratie, mais cette fois-ci beaucoup plus proprement pratique, hein, à savoir comment l'organiser, comment remplir ce déficit d'autorité dont elle souffre. Il reprend la distinction thomiste de l'auctoritas et de la potestas. Bon, il a donc toute une série de premiers textes qui sont encore là, pas achevés, transitoires. La réflexion chez lui sur l'autorité, par exemple, elle va s'enraciner dans des discussions avec son disciple Yves Simon jusqu'à son traité « L'homme et l'État » en 1951. Et c'est là qu'il donnera sa pensée définitive sur la question de l'autorité en démocratie. Et donc, c'est à travers ensuite l'exil aux États-Unis, de quelques-uns de nos thomistes, et la catastrophe, que la réflexion ici initiée va connaître tous ses prolongements, Maritain retrouvant aux États-Unis un certain nombre d'amis, de disciples, et donc pour préciser cette fois-ci une philosophie de la démocratie, que vous retrouverez d'abord dans Christianisme et démocratie, 1942, puis Principe d'une politique humaniste, 1944. Et donc il reprend la question de l'autorité, la question de la souveraineté, la question du régime politique, et il reprend ça dans une étroite fraternité d'armes avec son disciple donc Yves Simon, qui a eu un rôle tout à fait important aussi dans une maturation de la réflexion à deux. Alors, il avait notamment chargé un des moments clés, ça va être, je m'arrêterai là, c'est en 1940, on est cette fois-ci bien loin de Maurras, bien loin de la France occupée, puisqu'on est au Jewish Theological Seminary of America, où avec le rabbin Louis Finkelstein, qui a donc organisé toute une session internationale des penseurs internationaux sur une conférence sur la science, la philosophie et la religion pour travailler au renouveau de la pensée démocratique, puisque ce n'est pas simplement un débat français, c'est un débat qui est européen, mais également qui est aux États-Unis. Et donc Maritain, qui ne pouvait pas y aller, il a fait intervenir Yves Simon en disant « Mais voilà, vous allez faire un papier sur thomisme et démocratie ». Alors, je vais lire simplement l'échange entre les deux. Alors, Simon travaille. « Je n'ai pas le moyen d'être sincère dans ce statement. Ce statement n'est ni une œuvre historique, ni expression de ce que je pense sur la démocratie. Je mets en valeur les aspects du thomisme qui peuvent être intégrés à une philosophie démocratique, en corrigeant, bien entendu. Mais je ne dis rien, je ne puis rien dire de l'esclavagisme modéré, qui est thomiste autant que la doctrine des corps célestes, mais qu'on ne peut pas supprimer comme la doctrine des corps célestes, parce que c'est un esprit qui s'infiltre un peu partout. Je fais donc comme le pauvre Francisque Gay, quand il faisait l'exégèse des encycliques pour la moindre censure des nazis, mais qui ne les citait pas quand ce journal applaudissait au massacre des ouvriers de Vienne. Et ce jeu malpropre me dégoûte. Et puis, comme je le disais, il faut être pratique. Or, ce qu'il y a de pratique aujourd'hui, c'est l'esprit des révolutions anglaises, américaines. On ne sauvera pas un juif des camps de concentration en citant l'auteur antisémite de la lettre à la duchesse de Brabant. S'il faut être pratique, ce qui est important, c'est vivre libre ou mourir. Bon. Et donc, après, il dit Saint Thomas, c'est Garrigou. Donc, comment faire pratique avec les textes de Saint Thomas ? Alors, ne donnons pas trop d'importance d'abord à Yves Simon et à son style magnifique, mais en même temps, là, on est dans l'effort de création, justement. Et une fois que l'effort sera fait, donc que Maritain et Simon auront pu faire leur premier pas en découvrant chez Saint Thomas les principes d'une philosophie nouvelle de la démocratie, ça va être au contraire un cri de victoire. Alors, Maritain lui écrit « Merci du papier sur la démocratie, mon bien cher Yves. J'avais l'esprit prévenu contre lui par tout le mal que vous m'en aviez dit. Eh bien, je le trouve excellent, substantiel, bien équilibré, parfaitement clair, plein des aperçus les plus utiles. Vos remarques finales sur l'utilisation de Saint Thomas en philosophie politique sont très justes et précieuses. Je suis très heureux que vous ayez pris sur le même pied la philosophie politique et la philosophie des sciences. Les extérieurs du thomisme, l'environnement de l'époque, la couleur locale, si je puis dire, Les apparences d'esclavagisme modéré dont vous me parliez dans votre lettre ne sont pas plus étrangères que les apparences d'académisme en esthétique ou les apparences de statisme hellénique et de bric-à-brac pseudo-scientifique en philosophie de la nature. Partout, c'est plus qu'une coque qu'il faut briser pour trouver la vraie substance. La gangue accompagne toutes les fibres de la matière précieuse. Les bons pères et les bons monseigneurs s'imaginent béatement qu'il n'y a qu'à sortir la noix de sa coquille. Nous savons, n'est-ce pas, ce qu'il faut de peine et de douleur de l'esprit et de travail de recréation pour entrevoir un peu ce qu'est le thomisme vivant. C'est partout la même refonte, le même dépouillement qu'il faut opérer. D'autres s'attachent aux parties mortes. Et donc les pages de Maritain de 37-38 qui n'étaient pas prêtes, qui n'étaient pas au point, elles le seront par contre juste à la fin de la guerre et puis dans les années 50. Les réflexions sur démocratie et autorité, par exemple, on va les retrouver au sommaire d'une revue importante qui est mal connue parce qu'elle paraissait à New York, qui s'appelle La République française, et qui va travailler donc au renouveau, à tout le renouveau de la pensée démocratique. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais merci.